Elle s'appelle Audrey et elle nous interprétait Camaromance.
Actualité culturelle, écrivain public. La télé, sait-elle que la pauvreté existe? C'est un article de Nathalie Petrovski dans la presse d'aujourd'hui. La télé québécoise n'aime pas la pauvreté, ne montre pas la pauvreté, fait comme si la pauvreté n'existait pas. La télé québécoise aime les beaux logements, les bureaux propres et lisses, les lofts design, les galeries chics et branchées. Et puis, une fois tous les 100 ans, j'exagère, la télé québécoise ouvre sa porte, ses yeux, son cœur et sa plateforme web au monde de la pauvreté. C'est ce que TV5 a fait il y a 2 ans, en acceptant de financer une série web tournée dans Hochelaga-Maisonneuve et mettant en scène une faune colorée et multipoquée sur fond de pauvreté, de toxicomanie, de violence, de maladie mentale et parfois aussi d'appétit de vivre. Ainsi naquit Écrivain public. Une web-série glorieusement atypique qui revient pour une 2e saison sur la plateforme numérique de TV5 avant une diffusion télé. L'écrivain public, comme vous l'avez lu dans la presse en 2014 sous la plume de ma collègue Katia Gagnon, c'est Michel Duchesne, un auteur, réalisateur et multitâchiste du monde culturel. À l'été 2014, il a écrit et produit la comédie musicale « Catnip » avec Joe Bocan dans le rôle principal, une aventure périlleuse et ratée qui lui a laissé une dette de 50 000 $ sur le dos. En attendant que ces projets télé débloquent et que l'argent rentre, Duchesne a répondu à une annonce de la Ville de Montréal pour un poste d'écrivain public dont la mission serait d'aider les analphabètes d'un centre communautaire de Hochelaga-Maisonneuve. Le salaire à 12 $50 l'heure n'était pas faramineux, mais ça me permettait de payer le loyer et de passer du futile à l'utile et d'avoir une certaine prise sur le réel en aidant des gens démunis à rédiger des lettres ou à lire celles qu'ils recevaient, raconte Michel Duchesne dans un bistrot d'Outremont, à un coin de rue de l'école Paul-Gérin-Lajoie, où il a été engagé comme artiste en résidence jusqu'en juin. Duchesne a sévi comme écrivain public dans Hochelaga-Maisonneuve pendant environ un an, ce qui est peu de temps. Reste que sur le plan humain, il en a retiré l'expérience de toute une vie, ainsi que du matériel pour un livre, puis pour la websérie. TV5 est la seule télé qui a voulu prendre le risque de financer un projet dont les thèmes « pauvreté » et « analphabétisme » n'avaient rien de sexy, même s'ils étaient douloureusement d'actualité. En contrepartie, les budgets alloués aux 9 épisodes de 8 minutes chacun étaient aussi pauvres que les personnages de la série. La série a malgré tout remporté un succès d'estime et une myriade de prix. Un Gémeaux, un Numix, le prix spécial des droits de l'homme de Bilbao, le coup de cœur de Liège et un prix à Marseille pour l'émouvante interprétation d'Emmanuel Schwartz dans le rôle de Mathieu Martineau, l'écrivain public qui s'est mis en tête de sauver le pauvre monde, une lettre à la fois. Cette série, c'est avant tout un hommage aux gens du communautaire qui sont payés des salaires de misère pour s'occuper des plus poqués de la société et qui sont eux-mêmes condamnés à vivre dans une extrême précarité sans jamais savoir si leur subvention sera reconduite d'une année à l'autre, s'indigne Michel Duchesne qui croit que tous les artistes devraient, à un moment ou l'autre de leur vie, sortir de leur zone de confort et aller voir comment ça se passe vraiment dans le communautaire, mais aussi dans les hôpitaux et les écoles, histoire de se connecter aux vraies réalités de leur société. Alors, je m'arrête ici. Je vous invite à écouter l'entrevue que j'aurai le plaisir de faire avec Michel Duchesne au Par Actualité dans quelques minutes. Une demande d'arbitrage a été déposée en cour supérieure par Cineplex au lendemain de l'annonce de MK2 comme nouveau gestionnaire des salles de cinéma du Quartier Latin. La presse a appris que Cineplex désirait ainsi poursuivre le dialogue avec France Film afin de continuer à gérer les lieux. L'exploitant de salles avait en effet envoyé le 29 mai 2017 au propriétaire des locaux de la rue Emery un avis d'option préliminaire afin d'obtenir une extension de son bail qui devait prendre fin le 1er septembre prochain. Selon le document soumis en cour supérieure, Cineplex aurait fait une offre le 15 décembre dernier à France Film, jugée insatisfaisante par ce dernier. Cineplex aurait alors demandé un arbitrage pour arriver à une entente avec le propriétaire du cinéma Quartier Latin en vain. Cineplex France Film et MK2 ont refusé les demandes d'entrevue de la presse. Québec allonge des millions pour l'OSM et BANQ, c'est dans le Devoir sous la plume de Guillaume Bourgault-Côté. Est-ce un avant-goût de ce que le prochain budget provincial réservera à la culture? Le gouvernement Couillard bonifie de plus de 15 % l'aide qu'il versera annuellement à l'Orchestre symphonique de Montréal, OSM, pour les 5 prochaines années. Cela sans raison particulière. Une décision similaire touche Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, qui a appris mardi qu'elle touchera 2,8 millions pour poursuivre sa mission, sans plus de précision. D'où vient cet argent? Au cabinet de Mme Montpetit, de Marie Montpetit, la ministre de la Culture, on faisait valoir mardi que la bonne performance de l'économie du Québec accorde au gouvernement des revenus additionnels qui permettent de dégager certaines marges de manœuvre. On précise que le budget qui sera déposé mardi est le dépôt prochain de la politique culturelle seront l'occasion de dévoiler d'autres actions afin de soutenir le milieu culturel. D'autres annonces sont à venir, soutient l'attaché de presse de la ministre. Éric Lapointe a dévoilé hier le premier extrait d'un nouvel album, « Délivrance », qui sortira le 4 mai. La chanson en vente aujourd'hui s'intitule « Belle folie ». Il s'agit d'une power ballade écrite par Michel Rivard et dont Lapointe a co-signé la musique avec son collaborateur de longue date et frère de toujours, le guitariste Stéphane Dufour. Pour La Pointe, Belle Folie évoque une renaissance passionnelle qui représente une dernière chance de fuir l'hiver avec le printemps après l'enfer. Juste pour rire, a annoncé hier les noms des acteurs qui feront partie de l'adaptation québécoise du film Les Choristes. Le rôle principal du professeur Clément Mathieu, ce musicien sans emploi qui accepte un poste de pion dans un internat pour garçons, sera interprété par le comédien François Lécuyer. Ce dernier va chausser les souliers de Gérard Jugnot, qui jouait le doux et bienveillant professeur dans le long métrage sorti en 2004. Sur scène, Lécuyer sera entouré d'une solide distribution avec Renaud Paradis, Henri Chassé, Gary Boudreau, Charles-Alexandre Dubé et Linda Johnson, des membres de la maîtrise des petits chanteurs du Mont-Royal ainsi que des petits chanteurs de Laval assureront les rôles tenus par les enfants de la classe qui s'initient à l'art du chant. Serge Denoncourt assure la mise en scène du spectacle qui prendra l'affiche le 23 mai au Monument national. Le Canadien vedette de la télé américaine Howie Mandel devient copropriétaire avec le groupe ICM Partners de l'entreprise Juste pour rire. L'acquisition de la société mise en vente en octobre par Gilbert Rozon a été confirmée ce matin. Le groupe américain ICM Partners et l'animateur Howie Mandel prennent ainsi la tête de l'entreprise québécoise. La semaine dernière, le refus de Québecor de se prévaloir de son droit de faire une offre a scellé la vente à ICM Partners. Dans un communiqué, ICM Partners et Howie Mandel disent assurer la sauvegarde de la centaine d'emplois actuels du groupe Juste pour rire, ainsi que le maintien du siège social dans la métropole. Il en va de même pour les activités de Just for Laugh. La 36e édition du festival Juste pour rire se tiendra en juillet 2018 à Montréal, est-il aussi confirmé? Et pour terminer, le premier long métrage de Francis Bordelot, qui met notamment en vedette Ludivine Reding, la révélation de Fugueuse, prendra l'affiche sur les écrans québécois l'automne prochain. Tourné entièrement avec des fonds privés, Wolf est, selon les dires du cinéaste, un film un peu flyé. Le récit est construit autour du personnage qu'incarne Catherine Brunet, figure de proue d'un groupe de quatre amis qui planifie d'organiser sa mort devant ses proches. Antoine Pilon et Léa Roy incarnent les deux autres personnages du Quatuor, autour duquel gravitent plusieurs adultes interprétés par Catherine Deléant. Manuel Tadros, Marie-Lou Wolfe, Juliane Côté, Mylène Mackay, Alexis Martin et Roch Lafortune.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss. Ooh, are you? And ooh, again. Begin to remember my name. Oh, please, please, please kiss me again. When I forget my name again. Oh, kiss me one time. Oh, kiss me two times. To kiss me three times.
Mike a quitté.
I lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name.
On vient d'entendre Arthur H. et la pièce Tokyo Kiss.
Nouvelle encourageante pour ce segment sujet libre. Après l'une des pires saisons, l'un des pires hivers jamais vus au Québec, le pic de la grippe serait enfin derrière nous, assure le ministère de la Santé dans son plus récent bilan. Le virus de l'influenza est en baisse dans la province depuis 3 semaines, mais il faudra attendre au moins jusqu'à Pâques pour que l'activité grippale atteigne un niveau faible, prévient par contre le M3S. Ben, pas que ça s'en vient, hein, c'est vendredi prochain, le week-end prochain. Pas celui qui s'en vient, l'autre, oui. La saison grippale 2017-2018 est particulièrement intense à cause d'une co-circulation des virus de type A et B. La saison de grippe B, en plus d'avoir été beaucoup plus précoce que par les années antérieures, a été l'une des plus importantes jamais observées au Québec, peut-on lire dans le dernier bulletin Flash Grippe. Le M3S souligne aussi que la grippe a entraîné un nombre d'appels significativement plus élevé cette saison auprès d'InfoSanté. L'ancien membre des Beatles, Ringo Starr, 77 ans, a été adoubé par le prince William hier à Buckingham Palace. Le batteur des Fab Four pourra désormais se faire appeler Sir, tout comme Paul McCartney, l'autre membre de la formation mythique qui avait été fait chevalier de la monarchie britannique en 1997. Dans la presse, section pause, plein air, conseil de pro pour survivre en forêt, c'est un article de Marie Tison. Lundi soir, dans un sous-sol d'église au beau milieu de Pointe-Claire, difficile d'être plus loin de la forêt. Et pourtant, la forêt est bien présente dans l'esprit de chacun des scouts qui sont assis en arc de cercle, les plus jeunes en avant, les plus expérimentés en arrière. Ils écoutent attentivement André Lacombe, un ingénieur civil de profession qui bénévolement participe à des opérations de recherche et sauvetage et donne des présentations à des groupes de jeunes pour que ceux-ci ne deviennent pas les sujets de telles opérations. Comme je fais partie d'un groupe de recherche et sauvetage et que je participe parfois à des opérations, je tiens à ce que vous soyez prêts, déclare-t-il à son auditoire. Les scouts du groupe Valois United, surtout les plus vieux, en connaissent déjà un bon bout, en fait, de survie en forêt. Mais il n'y a rien comme une petite révision pour que les connaissances soient bien assimilées. M. Lacombe fait de telles présentations dans le cadre d'Adventure Smart, un ensemble de programmes de prévention financés par le gouvernement canadien. La plupart de ces programmes visent les adultes, mais certains ciblent les enfants. Le bénévole commence ainsi avec le programme destiné aux plus jeunes qui ne compte que 4 règles. En premier lieu, dites à un adulte où vous allez et vers quelle heure vous devriez revenir, déclare-t-il. Si jamais quelque chose devait arriver, les autorités sauront où effectuer les recherches. Si vous vous perdez, restez près d'un arbre et ne bougez plus, dit André Lacombe. Bénévole. L'idée, c'est de faire en sorte que l'enfant demeure sur place. Il est très difficile de trouver quelqu'un qui se déplace constamment. Ce serait bien si les adultes suivaient aussi cette règle, soupire M. Lacombe devant les jeunes scouts. En fait, cette règle ne s'applique pas uniquement en forêt. Elle peut être très utile en milieu urbain. André Lacombe raconte comment un petit garçon de maternelle qui avait assisté à une de ses présentations a mis cette recommandation en œuvre après s'être perdu à Disney World. Un mouvement de foule, après un défilé, l'avait séparé de ses enfants, de ses parents. Ceux-ci l'ont finalement retrouvé appuyé à un lampadaire, tout près de l'endroit où ils avaient regardé le défilé. « Je n'ai pas trouvé de gros arbres », a expliqué le petit garçon. La troisième règle est aussi facile à retenir. « Restez au sec », recommande M. Lacombe. Il suggère d'utiliser une couverture de survie, un accessoire léger qui devrait toujours se trouver dans le fond du sac à dos. Il conseille également de se construire une sorte de nid avec des branchages pour s'isoler du sol froid. Finalement, répondez aux sauveteurs quand vous les entendez, rappelle André Lacombe. Il arrive que les enfants, peut-être par peur de se faire gronder, gardent le silence lorsque les sauveteurs crient leur nom pendant les recherches. Faites du bruit. Utilisez un sifflet si vous en avez un. Ça peut aussi servir à faire peur aux animaux. Survie à l'extérieur. Comme plusieurs scouts dans l'auditoire sont des adolescents, André Lacombe poursuit sa présentation avec le programme « Survie à l'extérieur » qui s'adresse aux adultes. « On ne veut pas vous effrayer. On ne veut pas que vous ayez peur du dehors. On veut que vous y retourniez, vous y retourniez encore et encore. » Au plus vieux scout qui affirme connaître toutes ces règles, il rappelle que n'importe qui, même le plus expérimenté, peut se perdre en forêt. « On dit que ça ne nous arrive pas. Mais ça m'est arrivé. Je me suis perdue parce que je suivais aveuglément quelqu'un qui disait connaître très bien l'endroit, » dit M. Lacombe. Il insiste donc sur la préparation à commencer par l'élaboration d'un itinéraire à laisser à un proche. Évidemment, il faut suivre cet itinéraire. Il y a un homme qui avait laissé un plan, mais qui avait décidé à la dernière minute d'aller sur une montagne différente, raconte-t-il. Il s'est blessé, mais lorsque ses proches ont réalisé qu'il ne revenait pas, ils ont envoyé les sauveteurs sur la montagne initiale. Il a été chanceux. Un hélicoptère l'a vu en passant. Il faut aussi consulter la météo et prévoir les vêtements appropriés. Il est aussi toujours bon d'avoir suivi des formations, qu'il s'agisse de cours généraux en orientation ou en secourisme, ou relatifs à l'activité pratiquée. Si vous suivez des cours en canot, vous saurez quoi faire si subitement le vent se lève et les vagues grossissent. Il énumère les éléments essentiels à porter avec soi. Des vêtements chauds, une lampe de poche, un sifflet, de l'eau et de la nourriture, une carte et une boussole, une couverture de survie, une trousse de premiers soins, un couteau de poche et le nécessaire pour allumer un feu. Sans surprise, tous les scouts présents se mettent à rire lorsque M. Lacombe leur demande s'ils savent faire un feu. Et si malgré tout, ils se perdent, l'important, c'est de ne pas paniquer. Il faut arrêter, réfléchir, observer, planifier, énumère M. Lacombe. À l'issue de la présentation, les scouts se pressent en avant pour mettre la main sur les sifflets et les couvertures de survie que distribue le présentateur. À 11 ans, Cassandra Rodinus affirme qu'elle connaissait déjà les règles de survie présentées. Toutefois, un détail la surprise. Il y a des gens, des bénévoles qui veulent qu'on demeure en sécurité et qui font des opérations de recherche et sauvetage sans être payés, note-t-elle. Ça m'impressionne. Les chiffres de la semaine, c'est dans le bas de la chronique que je viens de lire. 88 jours, 23 heures, 47 minutes. C'était la durée de l'hiver 2017-2018. Vive le printemps! Et justement, mode 10 tendances à repérer pour le printemps 2018, c'est Jean Héroldi, Milan, Paris, Londres, New York. Les créateurs sont unanimes, le printemps 2018 sera bucolique. Les grands couturiers proposent des couleurs hautes en couleurs, empreintes de créativité. L'inspiration de la fin des années 80 et du début des années 90 est flagrante avec des volumes exagérés, des coupes asymétriques et des matières glamour. Le blanc est indétrônable, mais il faut dire que les couleurs gagnent du terrain. Les teintes pastels rivalisent avec les couleurs plus franches. Le rose encore sur sa lancée et le rouge à son apogée font fureur en duo. Le jaune sort enfin de l'ombre et le vert fait une entrée remarquée. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester à l'écoute si vous êtes en direct. Les paractualités suivent. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. À demain ou à tout de suite.